Romain Rolland, Jean-Christophe, tome 10, La Nouvelle Journée. Première partie, chapitre 1er. La vie passe, le corps et l'âme s'écoulent comme un flot. Les ans s'inscrivent sur la chair de l'arbre qui vieillit. Le monde entier des formes s'use et se renouvelle. Toi seul ne passe pas, immortelle musique. Tu es la mer intérieure, tu es l'âme profonde. Dans tes prunelles claires, la vie ne mire pas son visage morose. Au loin de toi s'enfuit, troupeau de nuées, les jours brûlants, glacés, fiévreux, que l'inquiétude chasse, que jamais rien ne fixe. Toi seul ne passe pas. Tu es en dehors du monde. Tu es un monde à toi seul. Tu as ton soleil qui mène ta ronde des planètes, ta gravitation, tes nombres et tes lois. Tu as la paix des étoiles qui tracent dans le champ des espaces nocturnes leurs sillons lumineux, charrues d'argent que mène l'invisible bouvier. Musique, amie sereine, ta lumière lunaire est douce aux yeux fatigués par le brutal éclat du soleil d'ici-bas. L'âme qui se détourne de l'abreuvoir commun, où les âmes pour boire remuent la vase avec leurs pieds, se presse sur ton sein et suce à tes mamelles le ruisseau de lait du rêve. Musique, vierge mère, qui portes en ton corps immaculé toutes les passions, qui contient dans le lac de tes yeux couleur de jonc, couleur de l'eau vert pâle qui coule des glaciers, tout le bien, tout le mal. Tu es par-delà le mal, tu es par-delà le bien. Qui chez toi fait son nid, vit en dehors des siècles. La suite de ses jours ne sera qu'un seul jour, et la mort qui tout mord s'y brisera les dents. Musique qui berça mon âme endolorie, musique qui me l'a rendue calme, ferme et joyeuse, mon amour et mon bien, je baise ta bouche pure. Dans tes cheveux de miel, je cache mon visage. J'appuie mes paupières qui brûlent sur la paume douce de tes mains. Nous nous taisons, nos yeux sont clos, et je vois la lumière ineffable de tes yeux, et je bois le sourire de ta bouche muette. Et, blotti sur ton cœur, j'écoute le battement de la vie éternelle. Christophe ne compte plus les années qui s'enfuient. Goutte à goutte, la vie s'en va. Mais sa vie est ailleurs. Elle n'a plus d'histoire. Son histoire, c'est l'œuvre qu'il crée. Le chant incessant de la source musique remplit l'âme et la rend insensible au fracas du dehors. Christophe a vaincu. Son nom s'est imposé. Ses cheveux ont blanchi. L'âge est venu. Il ne s'en soucie point. Son cœur est toujours jeune, il n'a rien abdiqué de sa force et de sa foi. Il a de nouveau le calme, mais ce n'est plus le même qu'avant d'avoir passé par le buisson ardent. Il garde au fond de lui le tremblement de l'orage et de ce que la mer soulevée lui a montré de l'abîme. Il sait que nul ne doit se vanter d'être maître de soi qu'avec la permission de Dieu qui règne dans la bataille. Il porte en son âme deux âmes. L'une est un haut plateau battu des vents et des nuages. L'autre, qui la domine, est un sommet neigeux qui baigne dans la lumière. On y peut séjourner, mais quand on est glacé par les brouillards d'en bas, on connaît le chemin qui monte vers le soleil. Dans son âme de brume, Christophe n'est jamais seul. Il sent auprès de lui la présence de la robuste amie, sainte Cécile, aux yeux larges qui écoute le ciel. Et comme l'apôtre Paul, dans le tableau de Raphaël, qui se tait et qui songe, appuyé sur l'épée, il ne s'irrite plus, il ne pense plus à combattre, il édifie son rêve. Il écrivait surtout, dans cet âge de sa vie, des compositions pour clavier et pour musique de chambre. On y est bien plus libre d'oser davantage. Il y a moins d'intermédiaires entre la pensée et sa réalisation. Celle-là n'a pas eu le temps de s'affaiblir en route. Frescobaldi, Couperin, Schubert et Chopin, par leur témérité d'expression et de style, ont devancé de 50 ans les révolutionnaires de l'orchestre. De la pâte sonore que pétrissaient les fortes mains de Christophe sortaient des agglomérations harmoniques inconnues, des successions d'accords vertigineux issus des plus lointaines parentés de sons accessibles à la sensibilité d'aujourd'hui. Ils exerçaient sur l'esprit un envoûtement sacré. Mais il faut du temps au public pour s'habituer aux conquêtes qu'un grand artiste rapporte de ses plongées au fond de l'océan. Bien peu suivait Christophe dans l'audace de ses dernières compositions. Sa gloire était due toute à ses premières œuvres. Le sentiment de l'incompréhension publique dans le succès, plus pénible encore que dans l'insuccès, car elle paraît sans remède, avait aggravé chez Christophe, depuis la mort de son unique ami, une tendance un peu morbide à s'isoler du monde. Cependant, les portes de l'Allemagne s'étaient rouvertes à lui. En France, l'oubli était tombé sur la tragique échauffourée. Il était libre d'aller où il voulait, mais il avait peur des souvenirs qui l'attendaient à Paris. Et bien qu'il fût rentré pour quelques mois en Allemagne, bien qu'il y revînt de temps en temps pour diriger les exécutions de ses œuvres, il ne s'y était point fixé. Trop de choses l'y blessaient. Elles n'étaient pas spéciales à l'Allemagne, il les trouvait ailleurs. Mais on est plus exigeant pour son pays que pour un autre, et on souffre davantage de ses faiblesses. Au reste, il était vrai que l'Allemagne portait la plus lourde charge des péchés de l'Europe. Quand on a la victoire, on en est responsable. On contracte une dette envers ceux qu'on a vaincus. On prend l'engagement tacite de marcher devant eux, de leur montrer le chemin. Louis XIV, vainqueur, apportait à l'Europe la splendeur de la raison française. Quelle lumière l'Allemagne de Sedan a-t-elle apporté au monde? L'éclair des baïonnettes? Une pensée sans elle, une action sans générosité, un réalisme brutal qui n'a même pas l'excuse d'être saint. La force et l'intérêt. Mars, commis voyageur. 40 ans, l'Europe s'était traînée dans la nuit sous la peur. Le soleil était caché sous le casque du vainqueur. Si des vaincus trop faibles pour soulever l'éteignoir n'ont droit qu'à une pitié mêlée d'un peu de mépris, quel sentiment mérite l'homme au casque? Depuis peu, le jour commençait à renaître. Des trouées de lumière passaient par les fissures. Pour être des premiers à voir le soleil, Christophe était sorti de l'ombre du casque. Il revenait volontiers dans le pays dont il avait été naguère l'hôte forcé, en Suisse. Comme tant d'esprits d'alors, altérés de liberté, qui suffoquaient dans le cercle étroit des nations ennemies, il cherchait un coin de terre où l'on pût respirer au-dessus de l'Europe. Jadis, au temps de Goethe, la Rome des libres papes était l'île où les pensées de toute race venaient se poser, ainsi que les oiseaux à l'abri de la tempête. Maintenant, quel refuge! L'île a été recouverte par la mer, Rome n'est plus. Les oiseaux se sont enfuis des 7 collines. Les Alpes leur demeurent. Là se maintient, pour combien de temps encore, au milieu de l'Europe avide, l'îlot des 24 cantons. Certes, il ne rayonne point le mirage poétique de la ville séculaire. L'histoire n'y a point mêlé à l'air que l'on respire l'odeur des dieux et des héros. Mais une puissante musique monte de la terre nue. Les lignes des montagnes ont des rythmes héroïques. Et plus qu'ailleurs, ici, l'on se sent en contact avec les forces élémentaires. Christophe n'y venait point chercher un plaisir romantique. Un chant, quelques arbres, un ruisseau, le grand ciel, lui eussent suffi pour vivre. Le calme visage de sa terre natale lui était plus fraternel que la gigantomachie alpestre. Mais il ne pouvait oublier qu'ici, il avait recouvré sa force. Ici, Dieu lui était apparu dans le buisson ardent. Il n'y retournait jamais sans un frémissement de gratitude et de foi. Il n'était pas le seul. Que de combattants de la vie, que la vie a meurtri, ont retrouvé sur ce sol l'énergie nécessaire pour reprendre le combat et pour y croire encore. À vivre dans ce pays, il avait appris à le connaître. La plupart de ceux qui passent n'en voient que les verrues, la lèpre des hôtels qui déshonore les plus beaux traits de cette robuste terre, ces villes d'étrangers, monstrueux entrepôts où le peuple gras du monde vient acheter la santé, ces mangeoires de tables d'hôtes, ces ignobles gâchages de viande jetés dans la fosse aux bêtes, ces musiques de casino dont le bruit accompagne celui des petits chevaux, ces pitres italiens dont les braillements dégoûtants font pâmer d'aise les riches imbéciles qui s'ennuient, la sottise des étalages de boutiques, ours de bois, chalets, bibelots niais, servilement répétés, sans aucune invention, les honnêtes libraires aux brochures scandaleuses, toute la bassesse morale de ces milieux où s'engouffrent chaque année, sans plaisir, les millions de ces oisifs, incapables de trouver des amusements plus relevés que ceux de la canaille, ni simplement aussi vifs. Et ils ne connaissent rien de la vie de ce peuple qui est leur hôte. Ils ne se doutent pas des réserves de force morale et de liberté civique qui s'y sont amassées depuis des siècles, des charbons de l'incendie de Calvin et de Zwingli qui brûlent encore sous la cendre, du vigoureux esprit démocratique qui ignorera toujours la République napoléonienne, de cette simplicité d'institution et de cette largesse d'œuvre sociale, de l'exemple donné au monde par ces États-Unis de trois races principales d'Occident, miniature de l'Europe de l'avenir. Ils ignorent encore plus la Daphné qui se cache sous cette dure écorce, le rêve fulgurant et sauvage de Böcklin, le rock héroïsme de Hodler, la sereine bonhomie et la verte franchise de Gottfried Keller, l'épopée titanique, la lumière olympienne du grand Aed de Spitteler, les traditions vivantes des fêtes populaires, et la sève de printemps qui travaille l'arbre rude et antique, tout cet art encore jeune qui tantôt râpe la langue comme les fruits pierreux des poiriers sauvages, tantôt a la fadeur sucrée des myrtilles noires et bleues, mais du moins sans la terre, est l'œuvre d'autodidacte qu'une culture archaïque ne sépare point de leur peuple et qui lisent avec lui dans le même livre de vie. Christophe avait de la sympathie pour ces hommes qui cherchent moins à paraître qu'à être, et qui, sous le vernis récent d'un industrialisme germano-américain, conservent certains des traits les plus reposants de l'ancienne Europe rustique et bourgeoise. Il s'était fait parmi eux deux ou trois bons amis, graves, sérieux et fidèles, qui vivaient isolés et murés dans leurs recrets du passé. Ils assistaient à la disparition lente de la vieille Suisse, avec une sorte de fatalisme religieux, un pessimisme calviniste, de grandes âmes grises. Christophe les voyait rarement. Ses blessures anciennes s'étaient cicatrisées en apparence, mais elles avaient été trop profondes pour guérir tout à fait. Il avait peur de renouer des liens avec les hommes. Il avait peur de se reprendre à la chaîne d'affection et de douleur. C'était un peu pour cela qu'il se trouvait bien dans un pays où il était facile de vivre à l'écart, étranger parmi la foule des étrangers. Au reste, il était rare qu'il séjournât longtemps au même lieu. Il changeait souvent de gîte, vieil oiseau nomade qui a besoin d'espace et pour qui la patrie est dans l'air. Mein Reich ist in der Luft. Un soir d'été, il se promenait dans la montagne au-dessus d'un village. Il allait, son chapeau à la main, par un chemin en lacet qui montait. Arrivé à un tournant, le sentier sinuait, à l'ombre, entre deux pentes. Des buissons de noisetiers, des sapins, le bordaient. C'était comme un petit monde fermé. À l'un et l'autre coude, le chemin semblait fini, cabré au bord du vide. Au-delà, des lointains bleuâtres, l'air lumineux. Le calme du soir s'épandait goutte à goutte, comme un filet d'eau qui tintait sous la mousse. Elle apparut à l'autre tournant de la route. Vêtue de noir, elle se détachait sur la clarté du ciel. Derrière elle, deux enfants, un garçon et une fille, de 6 à 8 ans, jouaient, cueillaient des fleurs. À quelques pas, ils se reconnurent. Leur émotion se trahit dans leurs yeux, mais nulle exclamation, à peine un geste de surprise. Lui, très troublé, elle, ses lèvres tremblaient un peu. Ils s'arrêtèrent, presque à voix basse. « Grazia !»« Vous, ici ?» Ils se donnèrent la main et restèrent sans parler. La première, Grazia, fit un effort pour rompre le silence. Elle dit où elle habitait, demanda où il était. Questions et réponses machinales qu'ils écoutaient à peine, qu'ils entendirent après, quand ils furent séparés. Ils se contemplaient. Les enfants l'avaient rejointe, elle la lui présenta. Il éprouvait pour eux un sentiment hostile. Il les regarda sans bonté et ne dit rien. Il était plein d'elle, uniquement occupé à étudier son beau visage souffrant et vieilli. Elle était gênée par ses yeux. Elle dit « Voulez-vous venir ce soir ?» Elle nomma l'hôtel. Il demanda où était son mari. Elle montra son deuil. Il était trop ému pour continuer l'entretien. Il la quitta gauchement. Mais après avoir fait deux pas, il revint vers les enfants, qui cueillaient les fraises. Il les prit avec brusquerie, les embrassa et se sauva. Le soir, il vint à l'hôtel. Elle était sur la véranda vitrée. Ils s'assirent à l'écart. Peu de monde, deux ou trois vieilles personnes. Christophe était sourdement irrité de leur présence. Gratia le regardait. Il regardait Gratia en répétant son nom tout bas. « J'ai bien changé, n'est-ce pas ? » dit-elle. Il avait le cœur gonflé d'émotion. « Vous avez souffert, » dit-il. « Vous aussi, » fit-elle avec pitié, en regardant son visage ravagé par la peine et par la passion. Ils ne trouvèrent plus de mots. « Je vous en prie, » dit-il après un instant, « allons ailleurs. Est-ce que nous ne pouvons pas nous parler dans un lieu où nous soyons seuls ?»« Non, mon ami, restons ici. Nous sommes bien. Qui fait attention à nous ?» Je ne suis pas libre de parler. Cela est mieux, ainsi. Il ne comprit pas pourquoi. Plus tard, quand il repassa l'entretien dans sa mémoire, il pensa qu'elle n'avait pas confiance en lui. Mais c'était qu'elle avait une peur instinctive des scènes d'émotion. Elle cherchait un abri contre les surprises de leur cœur. Mais elle aimait la gêne de cette intimité dans un salon d'hôtel qui protégeait la pudeur de son trouble secret. Ils se dirent à mi-voix, avec de fréquents silences, les grandes lignes de leur vie. Le comte Bérény avait été tué en duel, quelques mois auparavant, et Christophe comprit qu'elle n'avait pas été très heureuse avec lui. Elle avait aussi perdu un enfant, son premier-né. Elle évitait toute plainte. Elle détourna l'entretien d'elle-même pour interroger Christophe, et elle témoigna, au récit de ses épreuves, une affectueuse compassion. Les cloches sonnaient, c'était un dimanche soir. La vie était suspendue. Elle lui demanda de revenir le surlendemain. Il fut affligé de ce qu'elle fut si peu pressée de le revoir. En son cœur se mêlaient le bonheur et la peine. Le lendemain, sous un prétexte, elle lui écrivit de venir. Ce mot banal le ravit. Elle le reçut cette fois dans son salon particulier. Elle était avec ses deux enfants. Il les regarda avec un peu de trouble encore et beaucoup de tendresse. Il trouva que la petite, l'aînée, ressemblait à sa mère. Il ne demanda pas à qui ressemblait le garçon. Ils causèrent du pays, du temps, des livres ouverts sur la table. Leurs yeux tenaient un autre langage. Ils comptaient parvenir à lui parler plus intimement. Mais entra une amie d'hôtel. Il vit l'aimable politesse avec laquelle Gratia recevait cette étrangère. Elle ne semblait pas faire de différence entre ces deux visiteurs. Il en fut affligé. Il ne lui en voulut pas. Elle proposa une promenade ensemble. Il accepta. La compagnie de cette autre femme, pourtant jeune et agréable, le glaça. Et sa journée fut gâtée. Il ne revit plus Gratia que deux jours après. Pendant ces deux jours, il ne vécut que pour l'heure qu'il allait passer avec elle. Cette fois encore, il ne réussit pas mieux à lui parler. Tout en se montrant bonne, elle ne se départait pas de sa réserve. Christophe y ajouta par quelques effusions de sentimentalité germanique qui la gênèrent et contre lesquelles d'instinct elle réagit. Il lui écrivit une lettre qui la toucha. Il disait que la vie était si courte et la leur si avancée déjà. Ils n'avaient plus que peu de temps à se voir. Il était douloureux et presque criminel de ne pas en profiter pour se parler librement. Elle répondit par un mot affectueux. Elle s'excusait de garder, malgré elle, une certaine méfiance, depuis que la vie l'avait blessée. Cette habitude de réserve, elle ne pouvait la perdre. Toute manifestation trop vive, même d'un sentiment vrai, la choquait, l'effrayait. Mais elle sentait le prix de l'amitié retrouvée, et elle en était aussi heureuse que lui. Elle le priait de venir dîner le soir. Son cœur fut inondé de reconnaissance. Dans sa chambre d'hôtel, couchée sur son lit, la tête dans ses oreillers, il sanglota. C'était la détente de 10 ans de solitude, car depuis la mort d'Olivier, il était resté seul. Cette lettre apportait le mot de résurrection pour son cœur affamé de tendresse. la tendresse. Il croyait y avoir renoncé. Il lui avait bien fallu apprendre à s'en passer. Il sentait aujourd'hui combien elle lui manquait et tout ce qu'il avait accumulé d'amour. Douce et sainte soirée. Il ne put lui parler que de sujets indifférents, malgré leur intention de ne se cacher rien. Mais que de choses bienfaisantes, il dit sur le piano, où elle l'invita du regard à lui parler. Elle était frappée de l'humilité de cœur de cet homme qu'elle avait connu orgueilleux et violent. Quand il partit, l'étreinte silencieuse de leurs mains dit qu'ils s'étaient retrouvés, qu'ils ne se perdraient plus. Il pleuvait sans un souffle de vent. Le cœur de Christophe chantait. Elle ne devait plus rester que quelques jours dans le pays, et elle ne retarda pas d'une heure son départ, sans qu'il osât le lui demander ni s'en plaindre. Le dernier jour, ils se promenèrent seuls avec les enfants. À un moment, il était si plein d'amour et de bonheur qu'il voulut le lui dire, mais d'un geste très doux, elle l'arrêta en souriant. « Chut, je sens tout ce que vous pouvez dire. » Ils s'assirent au détour du chemin où ils s'étaient rencontrés. Elle regardait, souriante toujours, la vallée à ses pieds. Mais ce n'était pas la vallée qu'elle voyait. Il contemplait le suave visage où les tourments avaient laissé leur marque. Dans l'épaisse chevelure noire, partout des fils blancs se montraient. Il ressentait une adoration pitoyable et passionnée pour cette chair qui s'était imprégnée des souffrances de l'âme. L'âme était partout visible en ses blessures du temps. Et il demanda à voix basse et tremblante, comme une faveur précieuse, qu'elle lui donna un de ses cheveux blancs. Elle partit. Il ne pouvait comprendre pourquoi elle ne voulait pas qu'il l'accompagnât. Il ne doutait point de son amitié, mais sa réserve le déconcertait. Il ne put rester deux jours dans le pays. Il partit dans une autre direction. Il tâcha d'occuper son esprit en voyage, en travaux. Il écrivit à Grazia. Elle lui répondit, deux ou trois semaines après, de courtes lettres où se montrait une amitié tranquille, sans impatience, sans inquiétude. Il en souffrait et il les aimait. Il ne se reconnaissait pas le droit de lui en faire un reproche. Leur affection était trop récente, trop récemment renouvelée. Il tremblait de la perdre. Et pourtant, chaque lettre qui lui venait d'elle respirait un calme loyal qui aurait dû le rassurer. Mais qu'elle était différente de lui. Ils avaient convenu de se retrouver à Rome vers la fin de l'automne. Sans la pensée de la revoir, ce voyage aurait eu pour Christophe peu de charme. Son long isolement l'avait rendu casanier. Il n'avait plus de goût à ces déplacements inutiles ou ce complet l'oisiveté fiévreuse d'aujourd'hui. Il avait peur d'un changement d'habitude, dangereux pour le travail régulier de l'esprit. D'ailleurs, l'Italie ne l'attirait point. Il ne la connaissait que par l'infâme musique des véristes et par les airs de ténor que la terre de Virgile inspire périodiquement aux littérateurs en voyage. Il éprouvait pour elle l'hostilité méfiante d'un artiste d'avant-garde qui a trop souvent entendu invoquer le nom de Rome par les pires champions de la routine académique. Enfin, ce vieux levain d'antipathie instinctive qui couve au fond des cœurs du Nord pour les hommes du Midi, ou du moins pour le type légendaire de jactance oratoire qui représente, aux yeux des hommes du Nord, les hommes du Midi. Rien que d'y penser, Christophe faisait sa lippe dédaigneuse. Non, il n'avait nulle envie de faire plus ample connaissance avec le peuple sans musique. Ainsi le nommait-il avec son outrance coutumière. Car que compte, disait-il, dans la musique de l'Europe actuelle, ces grattements de mandolines, ces vociférations de mélodrames à bleurs. Mais à ce peuple pourtant, Grazia appartenait. Pour la retrouver, jusqu'où et par quel chemin Christophe ne fût-il pas allé? Il en serait quitte pour fermer les yeux jusqu'à ce qu'il l'eût rejointe. Fermer les yeux, il y était habitué. Depuis tant d'années, ses volets étaient clos sur sa vie intérieure. Dans cette fin d'automne, c'était plus nécessaire que jamais. Trois semaines de suite, il avait plu sans répit. Et depuis, une calotte grise d'impénétrables nuées pesait sur les vallées de Suisse, grelottantes et mouillées. Les yeux avaient perdu le souvenir de la saveur du soleil. Pour en retrouver en soi l'énergie concentrée, il fallait commencer par faire nuit complète, et, sous les paupières closes, descendre au fond de la mine, dans les galeries souterraines du rêve. Là dormait dans la houille le soleil des jours morts. Mais à passer sa vie, accroupi, à creuser, on sortait de là brûlé, l'échine et les genoux raides, les membres déformés, le regard trouble, avec des yeux d'oiseau de nuit. Bien des fois, Christophe avait rapporté de la mine le feu péniblement extrait qui réchauffe les cœurs transis. Mais les rêves du Nord sentent la chaleur du poêle. On ne s'en doute pas lorsqu'on vit dedans. On aime cette tiédeur lourde, on aime ce demi-jour et les songes entassés dans la tête pesante. On aime ce qu'on a, il faut bien s'en contenter. Lorsqu'au sortir de la barrière alpestre, Christophe, assoupi dans un coin de son wagon, aperçut le ciel immaculé et la lumière qui coulait sur les pentes des monts, il lui sembla rêver. De l'autre côté du mur, il venait de laisser le ciel éteint, le jour crépusculaire. Si brusque était le changement, qu'il en sentit d'abord plus de surprise que de joie. Il lui fallut quelque temps avant que l'âme, engourdie, peu à peu se détendît, fendit l'écorce qui l'emprisonnait, et que le cœur se dégagea des ombres du passé. Mais à mesure que la journée s'avançait, la lumière moelleuse l'entourait de ses bras, et, perdant le souvenir de tout ce qui avait été, il buvait avidement la volupté de voir. Pleine du mille années, œil du jour qui se reflète dans les canaux bleutés, dont le réseau de veines sillonne les rizières duvetées. Arbre d'automne à la souple maigreur, au squelette élégant d'un dessin contourné, avec des touffes de duvet roux. Montagne de Vinci, Alpes neigeuses à l'éclat adouci, dont la ligne orageuse encercle l'horizon, frangée d'orange, d'or vert et d'azur pâle. Soir qui tombe sur l'Apennin. Descente sinueuse le long des monts abrupts, aux courbes serpentines, dont le rythme se répète et s'enchaîne en une farandole. Et soudain, au bas de la pente, comme un baiser, l'haleine de la mer aux orangers mêlés. La mer latine et sa lumière d'opale, où dorment suspendus, débarquent par volées aux ailes repliées. Sur le bord de la mer, à un village de pêcheurs, le train restait arrêté. On expliquait aux voyageurs qu'à la suite de grandes pluies, un éboulement s'était produit dans un tunnel sur la voie de Gênes à Pise. Tous les trains avaient des retards de plusieurs heures. Christophe, qui avait pris un billet direct pour Rome, fut ravi de cette malchance qui soulevait les protestations de ses compagnons. Il sauta sur le quai et profita de l'arrêt pour courir vers la mer dont le regard l'attirait. Il fut si bien attiré qu'une ou deux heures après, quand siffla le train qui repartait, Christophe était dans une barque et le voyant passer, lui cria « Bon voyage !» Sur la mer lumineuse, dans la luie lumineuse, il se laissait bercer, longeant les promontoires bordés de cyprès enfantins. Il s'installa dans le village. Il y passa 5 jours dans une joie perpétuelle. Il était comme un homme qui sort d'un long jeûne et qui dévore. De tous ses sens affamés, il mangeait la splendide lumière. Lumière, sang du monde, fleuve de vie, qui, par nos yeux, nos narines, nos lèvres, tous les pores de la peau, t'infiltre dans la chair, lumière plus nécessaire à la vie que le pain. Qui te voit dévêtu de tes voiles du Nord, pure, brûlante et nue, se demande comment il a jamais pu vivre sans te posséder, et sait qu'il ne pourra jamais plus vivre sans te désirer. 5 jours, Christophe se plongea dans une soûlerie de soleil. 5 jours, il oublia, pour la première fois, qu'il était musicien. La musique de son être s'était muée en lumière. L'air, la mer et la terre, symphonie du soleil. Et de cet orchestre, avec quel art inné l'Italie s'est usée. Les autres peuples peignent d'après nature. L'Italien collabore avec elle. Il peint avec le soleil. Musique des couleurs. Tout est musique, tout chante. Un mur du chemin, rouge craquelé d'or. Au-dessus, 2 cyprès à la toison crêpelée. Le ciel d'un bleu avide autour. Un escalier de marbre blanc et raide qui monte entre des murs roses vers une façade bleue. Des maisons multicolores, abricots, citrons, cédras, qui luisent parmi les oliviers, fruits merveilleux dans le feuillage. La vision italienne est une sensualité. Les yeux jouissent des couleurs comme la langue d'un fruit juteux et parfumé. Sur ce régal nouveau, Christophe se jetait avec gourmandise. Il prenait sa revanche de l'ascétisme des visions grises auxquelles il avait été jusque-là condamné. Son abondante nature, étouffée par le sort, prenait soudain conscience des puissances de jouir dont il n'avait rien fait. Elle s'emparait de la proie qui leur était offerte. Odeurs, couleurs, musique des voix, des cloches et de la mer, voluptueuses caresses de l'air et de la lumière. Christophe ne pensait à rien. Il était dans la béatitude. Il n'en sortait que pour faire part de sa joie à ceux qu'il rencontrait. À son batelier, un vieux pêcheur, aux yeux vifs et plissés, coiffé d'une toque rouge de sénateur vénitien. À son unique commensal, un Milanais qui mangeait du macaroni, en roulant des yeux d'Othello, atroce, noir de haine furieuse, homme apathique. Au garçon de restaurant qui, pour porter un plateau, ployait le cou, tordait les bras et le torse, comme un ange de Pernin. Au petit Saint-Jean, dardant des œillades coquettes, qui mendiait sur le chemin, en offrant une orange avec la branche verte. Il interpellait les voiturins, vautrés, la tête en bas au fond de leur chariot, et poussant par accès intermittents les mille et un couplets d'un chant nasillard. Il se surprenait à fredonner « Cavalleria rusticana ». Le but de son voyage était oublié. Oublié sa hâte d'arriver au but, de rejoindre Gratia. Jusqu'au jour où l'image aimée se réveilla. Fût-ce au choc d'un regard, rencontré sur la route, ou d'une inflexion de voix, grave et chantante, il n'en eut pas conscience. Mais 1h20, où de tout ce qui l'entourait, du cercle des collines couvertes d'oliviers, et des hautes arêtes polies de l'Apennin, que sculpte l'ombre épaisse le soleil ardent, et des bois d'orangers, et de la respiration profonde de la mer, rayonna la figure souriante de l'ami. Par les yeux innombrables de l'air, les yeux de Gratia le regardaient. Elle fleurissait de cette terre comme une rose d'un rosier. Alors il reprit le train pour Rome, sans s'arrêter nulle part. Rien ne l'intéressait des souvenirs italiens, des villes d'art du passé. De Rome, il ne vit rien, il ne chercha à rien voir. Et ce qu'il en aperçut au passage, d'abord, des quartiers neufs sans style, des bâtisses carrées, ne lui inspira pas le désir d'en connaître davantage. Aussitôt arrivé, il alla chez Gratia. Elle lui demanda « Par quel chemin êtes-vous venu? Vous êtes-vous arrêté à Milan, à Florence ?»« Non, dit-il. Pourquoi faire ?» Elle rit. « Belle réponse. Et que pensez-vous de Rome ?»« Rien, dit-il. Je n'ai rien vu. »« Mais encore ?»« Rien, pas un monument. Au sortir de l'hôtel, je suis venu chez vous. » Il suffit de 10 pas pour voir Rome. Regardez ce mur en face. Il n'y a qu'à voir sa lumière. « Je ne vois que vous, dit-il. Vous êtes un barbare, vous ne voyez que votre idée. Et quand êtes-vous parti de Suisse ? Il y a 8 jours. Qu'avez-vous donc fait depuis ? Je ne sais pas. Je me suis arrêté par hasard dans un pays près de la mer. J'ai à peine fait attention au nom. J'ai dormi pendant 8 jours. Dormi, les yeux ouverts. Je ne sais pas ce que j'ai vu, je ne sais pas ce que j'ai rêvé. Je crois que j'ai rêvé de vous. Je sais que c'était très beau. Mais le plus beau, c'est que j'ai tout oublié. « Merci, dit-elle. » Il n'écouta pas. Tout, reprit-il, tout ce qui était alors, tout ce qui était avant. Je suis comme un homme nouveau qui recommence à vivre. « C'est vrai, dit-elle, en le regardant avec ses yeux riants. Vous avez changé depuis notre dernière rencontre. » Il la regardait aussi, et ne la trouvait pas moins différente de celle qu'il se rappelait. Non pas qu'elle eût changé, pourtant, depuis 2 mois, mais il la voyait avec des yeux tout neufs. Là-bas, en Suisse, l'image des jours anciens, l'ombre légère de la jeune Gratia, s'interposait entre son regard et l'amie présente. Maintenant, au soleil d'Italie, les rêves du Nord s'étaient fondus. Il voyait dans la clarté du jour l'âme et le corps réel de l'aimé. Qu'elle était loin de la chevrette sauvage prisonnière à Paris, loin de la jeune femme au sourire de Saint-Jean qu'il avait retrouvée un soir, peu après son mariage, pour la reperdre aussitôt. De la petite Madone ombrienne avait fleuri une belle romaine, color verus corpus solidum et succi plenum. Ses formes avaient pris une harmonieuse plénitude. Son corps était baigné d'une fière langueur. Le génie du calme l'entourait. Elle avait cette gourmandise du silence ensoleillé, de la contemplation immobile, cette jouissance voluptueuse de la paix de vivre que les âmes du Nord ne connaîtront jamais bien. Ce qu'elle avait conservé surtout du passé, c'était sa grande bonté, qui se mêlait à tous ses autres sentiments. Mais on lisait des choses nouvelles dans son lumineux sourire. Une indulgence mélancolique, un peu de lassitude, une pointe d'ironie, un paisible bon sens. L'âge l'avait voilée d'une certaine froideur qui l'abritait contre les illusions du cœur. Elle se livrait rarement, et sa tendresse se tenait en garde avec un sourire clairvoyant contre les emportements de passion que Christophe avait peine à réprimer. Avec cela, des faiblesses, des moments d'abandon au souffle des jours, une coquetterie qu'elle raillait elle-même, mais qu'elle ne combattait point. Nulle révolte contre les choses ni contre soi, un fatalisme très doux dans une nature toute bonne et un peu fatiguée. Elle recevait beaucoup, et sans beaucoup choisir, du moins en apparence. Mais comme ses intimes appartenaient en général au même monde, respiraient la même atmosphère, avaient été façonnées par les mêmes habitudes, cette société formait une harmonie assez homogène, très différente de celle que Christophe avait entendue en Allemagne et en France. La plupart étaient de vieilles races italiennes, vivifiées çà et là par des mariages d'étrangers. Il régnait parmi eux un cosmopolitisme de surface, où se mêlaient avec aisance les quatre langues principales et le bagage intellectuel des quatre grandes nations d'Occident. Chaque peuple y apportait son appoint personnel, les Juifs leur inquiétude et les Anglo-Saxons leur flegme, mais le tout aussitôt fondu dans le creuset italien. Quand des siècles de grands barons pillards ont gravé dans une race tel profil hautain et rapace d'oiseaux de proie, le métal peut changer, l'empreinte reste la même. Certaines de ces figures qui semblaient les plus italiennes, un sourire de Luini, un regard voluptueux et calme de Titien, fleurs de l'Adriatique ou des plaines lombardes, s'étaient épanouies sur des arbustes du Nord transplantés dans le vieux sol latin. Quelles que soient les couleurs broyées sur la palette de Rome, la couleur qui ressort est toujours le romain. Christophe, sans pouvoir analyser son impression, admirait le parfum de culture séculaire, de vieille civilisation, que respiraient ces âmes, souvent assez médiocres, et quelques-unes même au-dessous du médiocre. Impalpable parfum qui tenait à des riens, une grâce courtoise, une douceur de manière qui savait être affectueuse, tout en gardant sa malice et son rang, une finesse élégante de regard, de sourire, d'intelligence alerte et nonchalante, sceptique, diverse et aisée. Rien de raide et de rogue, rien de livresque. On n'avait pas à craindre de rencontrer ici un de ces psychologues de salon parisien, embusqué derrière son lorgnon, ou le caporalisme de quelques docteurs allemands. Des hommes, tout simplement, et des hommes très humains, tels que l'étaient déjà les amis de Térence et de Scipion l'Émilien. Homo sum. Belle façade. La vie était plus apparente que réelle. Par-dessous, l'incurable frivolité, commune à la société mondaine de tous les pays. Mais ce qui donnait à celle-ci ses caractères de race, c'était son indolence. La frivolité française s'accompagne d'une fièvre nerveuse, un mouvement perpétuel du cerveau, même quand il se meut à vide. Le cerveau italien sait se reposer, il ne le sait que trop. Il est doux de sommeiller à l'ombre chaude, sur le tiède oreiller d'un molle épicurisme et d'une intelligence ironique, très souple, assez curieuse et prodigieusement indifférente, au fond. Tous ces hommes manquaient d'opinions décidées. Ils se mêlaient à la politique et à l'art avec le même dilettantisme. On voyait là des natures charmantes, de ces belles figures italiennes de patriciens aux traits fins, aux yeux intelligents et doux, aux manières tranquilles, qui aimaient d'un cœur affectueux la nature, les vieux peintres, les fleurs, les femmes, les livres, la bonne chère, la patrie, la musique. Ils aimaient tout. Ils ne préféraient rien. On avait le sentiment parfois qu'ils n'aimaient rien. L'amour tenait pourtant une large place dans leur vie, mais c'était à condition qu'il ne la troublât point. Il était indolent et paresseux comme eux. Même dans la passion, il prenait volontiers un caractère familial. Leur intelligence, bien faite et harmonieuse, s'accommodait d'une inertie où les contraires de la pensée se rencontraient, sans heurts, tranquillement associés, souriants, émoussés, rendus inoffensifs. Ils avaient peur des croyances entières, des partis excessifs, et se trouvaient à l'aise dans les demi-solutions et les demi-pensées. Ils étaient d'esprit conservateur libéral. Il leur fallait une politique et un art à mi-hauteur, des stations climatiques où l'on ne risque pas d'avoir le souffle coupé et des palpitations. Ils se reconnaissaient dans le théâtre paresseux de Goldoni ou dans la lumière égale et diffuse de Manzoni. Leur aimable nonchaloire n'en était pas inquiétée. Ils n'eussent pas dit, comme leurs grands ancêtres, « primum vivere », mais plutôt « da prima quieto vivere ». Vivre tranquille, c'était le vœu secret, la volonté de tous, même des plus énergiques, de ceux qui dirigeaient l'action politique. Tel petit Machiavel, maître de soi et des autres, le cœur aussi froid que la tête, l'intelligence lucide et ennuyée, sachant, osant se servir de tout moyen pour ses fins, prêt à sacrifier toutes ses amitiés à son ambition, était capable de sacrifier son ambition à une seule chose, le sacro-saint quieto vivere. Ils avaient besoin de longues périodes d'anéantissement. Quand ils sortaient de là, ainsi que d'un bon sommeil, ils étaient frais et dispos. Ces hommes graves, ces tranquilles madones, étaient pris brusquement d'une fringale de paroles, de gaieté, de vie sociale. Il leur fallait se dépenser en une volubilité de gestes et de mots, de saillies paradoxales, d'humour burlesque. Ils jouaient l'opéra buffa. Dans cette galerie de portraits italiens, on eût trouvé rarement l'usure de la pensée. Cet éclat métallique des prunelles, ces visages flétris par le travail perpétuel de l'esprit, comme on en voit au nord. Pourtant, il ne manquait pas ici, comme partout, d'âmes qui se rongeaient et qui cachaient leurs plaies, de désirs, de soucis qui couvaient sous l'indifférence et, voluptueusement, s'enveloppaient de torpeur. Sans parler, chez certains, d'étranges échappées, baroques, déconcertantes, indices d'un déséquilibre obscur, propre aux très vieilles races, comme les failles qui s'ouvrent dans la campagne romaine. Il y avait bien du charme dans l'énigme nonchalante de ces âmes, de ces yeux calmes et railleurs, où dormait un tragique caché. Mais Christophe n'était pas d'humeur à le reconnaître. Il enrageait de voir Gratia entourée de gens du monde. Il leur en voulait, et il lui en voulait. Il la bouda, de même qu'il bouda Rome. Il espaça ses visites, il se promit de repartir.